Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur Rotrou en air. Une émission à la couleur d'un projet du lycée Rotrou dans l'air du temps, le lycée vert. Nous commencerons par un interview de Madame Bouzouina, proviseur du lycée, par Dimitri, suivi d'une visite autour des différentes initiatives autour de ce projet, avec Caroline et Dimitri guidés par Monsieur Bock, professeur de SVT. Caroline et Dimitri iront à la rencontre de plusieurs élèves impliqués dans ce projet du lycée vert, accompagnés de Monsieur Point, lui aussi professeur de SVT. Commençons tout de suite avec l'interview de Madame Bouzouina.
Me voici avec Madame Bouzouina, la proviseure du lycée Rotrou. Bonjour Madame Bouzouina.
Bonjour Dimitri.
Alors Madame la proviseure, vous êtes également impliquée dans le projet du lycée vert. Concrètement, qu'est-ce que le lycée vert ?
Le lycée vert, c'est avant tout une philosophie née de la volonté de plusieurs professeurs de SVT et des éco-délégués. C'est en fait le fait de s'approprier l'espace qui est celui du lycée et d'appliquer des concepts d'écologie à un établissement entier. Alors ça va de choses extrêmement visibles comme par exemple le fait de laisser l'éco-pâturage, de favoriser la biodiversité également. Ça, c'est assez visible, on va dire, dans l'espace même du lycée. Et puis, il y a des petits gestes d'écologie également qui sont moins visibles, mais qui sont peut-être extrêmement porteurs et peut-être plus impressionnants au bout du compte sur des chasses d'eau, le fait de moduler le nombre de litres d'eau utilisés dans les chasses d'eau. C'est tout un établissement qui se met à l'heure écologique. C'est une prise de conscience avant tout.
D'accord. Et qui en a eu l'idée ?
Alors, ce sont les professeurs d'SVT au départ.
Depuis quand Rotrou s'est investi dans ce projet ?
L'idée était en germe avant que je n'arrive. Mais elle s'est mise en œuvre et sous l'impulsion de certains professeurs extrêmement dynamiques et de personnes également qui sont un peu plus discrètes et qu'on voit moins, qui sont par exemple Monsieur Aubert qui travaille dans les labos avec l'équipe d'SVT, mais également avec des professeurs d'anglais qui ont travaillé sur les jardins, sur des choses comme ça. Madame Watson par exemple en fait partie, Monsieur Reyes. Monsieur Reyes est également extrêmement impliqué dans ce projet et c'est un professeur d'économie. En fait, c'est un projet qui touche beaucoup de professeurs et là, ça se développe. Je dirais que depuis 3 ans, c'est un projet qui prend réellement de l'ampleur. On travaille tous dans ce sens-là, on a des soutiens et il faut poursuivre. C'est un travail de tous les jours.
D'accord. Quel a été le coût des travaux de maintenance et tout ?
Alors, il y a des travaux qui ont coûté une certaine somme. Mais je ne sais pas si ça se calcule vraiment en termes d'argent parce que il y a ce que l'on investit et il y a ce qui revient au bout du compte sur la facture et qui ne se voit peut-être pas tout de suite, mais qui année après année peut se mesurer, notamment en termes non pas de facture mais de consommation, parce qu'en fait il y a un delta entre la facture et la consommation, les prix ayant augmenté, on ne le voit pas immédiatement sur la facture, mais par contre on le voit en termes de consommation, en termes de gaspillage, où on travaille énormément sur cette notion de gaspillage aussi.
Il y a eu des crédits d'impôt pour le projet ?
Non, il n'y a pas de crédit d'impôt pour le projet parce qu'en fait on travaille à l'échelle d'un établissement, c'est pas tout à fait les mêmes références qu'un individuel si vous voulez. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les travaux, lorsqu'ils sont effectués, on a toujours un réflexe écologique, c'est-à-dire on ne gaspille pas. Lorsqu'on doit investir sur le mobilier, eh bien on a plutôt le premier réflexe, c'est plutôt de reprendre un mobilier qui existait déjà, le réparer, le transformer. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'on travaille.
Et est-ce que ça vous a permis de faire des bénéfices ?
Des bénéfices, assurément, en tout cas intellectuellement, ça c'est sûr. Après, des bénéfices, non. Une économie, peut-être pour certaines lignes, pour certains domaines. Mais je crois à nouveau que ça se mesure surtout en termes de responsabilisation par rapport à la planète et par rapport à notre engagement de citoyen, par rapport à notre avenir, par rapport aux jeunes que nous formons. C'est une prise de conscience qui est nécessaire et qui était urgente à mon sens.
Quelles ont été les réactions? Comment ont réagi les élèves, les profs, l'administration?
Alors déjà, on a un soutien qui est non négligeable, un réel investissement au quotidien qui sont menés par nos deux autorités de tutelle, le rectorat la région centre. Alors, au niveau pédagogique, au niveau du rectorat, on a une labellisation EDD et nous sommes labellisés EDD. Donc ça veut dire une reconnaissance d'un travail, d'engagement par rapport à cela. Et puis, par rapport à la région, il y a un soutien. Notre projet lycée vert a été validé. Notre projet est soutenu même financièrement. C'est aussi ce qui fait qu'il y a tout ce système de poubelles différenciées dans chaque classe dorénavant. Il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là. Après, au niveau de la ville de Dreux, il y a eu des réunions, des éco-délégués. La ville de Dreux est extrêmement investie dans ce domaine vert également.
D'accord. Et pensez-vous que Rotrou a de la concurrence? Et si oui, quel lycée avez-vous en tête?
J'espère que Rotrou aura le plus de concurrence possible parce que ça voudra dire que, eh bien, il y a plusieurs lycées qui s'engagent vers la voie de l'écologie. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de concurrence. Et s'il y a concurrence, eh bien, je propose à tous les lycées qui s'engagent vers l'écologie, comme nous, nous nous engageons sur ce chemin-là, de nous rejoindre et que nous fassions des choses ensemble pour faire bouger les choses ensemble.
Et pour la suite du projet, qu'envisagez-vous, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme?
Un projet tel que celui-ci se nourrit tous les ans et doit être sur du long terme. Et là-dessus, je connais l'engagement des enseignants. C'est un engagement de tout le monde, c'est un engagement de tous, c'est un engagement aussi extrêmement important des agents qui, par exemple, utilisent certains produits et pas d'autres. Et maintenant, ils utilisent des produits naturels et non des pesticides. Il y a tout un travail qui est fait ensemble et qui va porter ses fruits au long terme. Donc, je pense que c'est un projet qui va durer assurément. Dans les projets qui vont durer, j'avoue, à titre personnel, être extrêmement attachée à nos moutons. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils restent le plus longtemps possible, en sachant qu'à l'heure actuelle, les moutons, en fait, sont prêtés pendant une période de 1 an. Et c'est renouvelé. Alors, initialement, ils ne devaient pas rester l'été. Et puis, finalement, on est tellement attachés à eux que finalement, on ne veut absolument plus les laisser partir et ils restent. Donc, voilà. Je pense aussi que ça nous, comme la mare pédagogique, ça nous permet aussi de travailler au niveau des cours. Donc, voilà. J'aimerais bien que tout ça reste, effectivement.
D'accord. Quelque chose à rajouter?
Alors, il y a un projet qui est en cours, qui est un projet de circuit training, en fait, à l'intérieur du lycée, qui me semble être rattaché à l'établissement de manière importante. Et j'aimerais bien que ce projet voie le jour. Par exemple, on pourrait recharger nos téléphones en faisant du vélo. Vous savez, comme ça, ça pourrait être assez amusant. Et puis, ça donnerait du sens aussi, parce que je pense que les jeunes ont besoin aussi qu'il y ait un sens concret qui soit donné à ces actions. Et ce que je souhaiterais, si j'avais un vœu à formuler, normalement, l'établissement doit avoir un nouvel internat. Et nous avons, nous, fait la demande express que l'internat soit fait à base de matériaux durables et de matériaux naturels. Donc je voudrais vraiment que ça se soit respecté. Nous luttons également pour la perte de chauffage au lycée Rotrou, et tous les élèves savent que c'est une vraie difficulté parce que le haut de l'établissement est totalement ouvert. L'architecte l'a prévu comme ça. Alors, si l'architecte l'a prévu comme ça il y a 20 ans, ça peut s'entendre, quoique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça nous pose problème. Enfin, on ne peut pas à la fois être en lycée vert et à la fois voir tout notre chauffage s'évaporer comme ça. Donc, ça me semble être là quelque chose qu'il va falloir travailler si on veut être cohérent. Et pour ça, ça va demander une concertation de tous. Mais j'ai toujours bon espoir. Les jolis projets, et c'en est un, s'étale sur plusieurs années. Il ne faut pas attendre d'un projet tel que celui-ci qu'il soit rentable au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans. La rentabilité, elle va être dans la répétitivité des gestes écologiques, dans le respect de la planète. En fait, notre récompense, elle sera quand vous serez adulte. Et là, on pourra voir si on a bien travaillé ou pas.
D'accord, eh bien merci beaucoup pour votre participation. Ce fut un plaisir de vous avoir interviewé.
Merci à vous et merci de vous intéresser à ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur.
Passons maintenant à la visite du lycée Vert, accompagnée de Caroline et Dimitri, avec Monsieur Bock, professeur de SVT du lycée.
Dans quelle partie du lycée nous trouvons-nous ?
Donc ici, on est dans la partie jardin botanique. Donc c'est une zone dans laquelle on a installé des bacs avec des cultures de plantes sauvages.
Quelles sont les caractéristiques de chacun des bacs ?
Alors on a essayé de regrouper les plantes par thème. Donc on a un thème qui est effectivement consacré aux plantes toxiques. Mais on a un autre bac qui est consacré aux plantes aromatiques. Un autre consacré aux plantes qui sont utilisées pour les tissus, soit pour fabriquer des tissus, soit pour teindre les tissus. Un autre encore sur les plantes messicoles. Les plantes messicoles, c'est les plantes qui poussent dans les cultures, qui sont en voie de disparition à cause des herbicides. Et enfin, un autre bac où on a mis d'autres usages de plantes médicinales, mais pas toxiques.
J'ai remarqué qu'il y avait quelques plantes toxiques. Pourquoi en cultiver ?
Donc les plantes, elles fabriquent des substances chimiques pour se défendre. Certaines substances sont non toxiques pour nous, mais toxiques pour des bactéries. Par exemple, le thym, qui fabrique des substances antibactérienne et qui est très utile pour notre cuisine. Et il y a d'autres plantes qui fabriquent des substances qui sont toxiques pour nous, mais pas pour des animaux, par exemple. Et donc, ça fait partie des plantes. Donc, certains usages sont utilisés par contre pour la pharmacie.
D'où viennent-elles, ces plantes ?
Alors, toutes les plantes sont issues de la nature, puisque c'est des plantes sauvages. Donc, certaines, on a trouvé directement dans la nature et d'autres que je cultive moi-même dans mon jardin.
Qu'est-ce que la toxicité pour vous ?
Alors, la toxicité, tout est relatif. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les plantes peuvent être toxiques pour certaines espèces et pas pour d'autres. Donc la toxicité, c'est ce qui provoque une réaction donc, qui peut être mortelle pour les cellules et pour l'organisme. Par exemple, il y a certaines plantes qui sont utilisées, qui sont toxiques pour nous, mais pas pour d'autres espèces. Par exemple, il y a certaines chenilles qui mangent des plantes toxiques et qui deviennent elles-mêmes toxiques pour les oiseaux, par exemple.
Quelle est la plante la plus toxique dans le petit jardin potager qu'on a ici ?
Alors ici, on a l'aconite, qui est une des plantes les plus toxiques de France, dont quelques grammes de racines suffit à tuer un homme.
Elle ressemble à quoi ?
Alors, c'est une plante de la famille des renonculacées. Donc elle a des feuilles très découpées et une inflorescence avec des fleurs violettes. Elle est d'ailleurs en fleurs actuellement.
Très bien, merci. Nous nous dirigeons maintenant vers les orchidées.
Donc ici on est dans une zone où on a découvert des orchidées sauvages. Donc on a au moins trois espèces sur le lycée. On a les très grosses rosettes qui sont l'orchis book. Donc c'est un orchidée qui peut faire jusqu'à 50 cm de haut, qui fait une inflorescence avec des fleurs assez denses mais pas très colorées et qui a une odeur assez forte de book, d'où son nom. On a une autre orchidée qui pousse plutôt dans cette zone-là, mais il y en a aussi dans la zone sauvage qui est du côté du cinéma là-bas, qui a des fleurs qui ressemblent à des insectes. La plante fabrique aussi des substances chimiques qui miment les substances chimiques fabriquées par la femelle de l'insecte, et le mâle vient sur la fleur pour copuler en croyant que c'est une femelle, et à ce moment-là, il participe à la pollinisation des fleurs. Et la troisième, c'est l'orchis pyramidale. C'est une orchidée qui fait une inflorescence pyramidale rose et qui est légalement protégée en région centre. Et donc le lycée s'est investi dans la protection de ces espèces en limitant la tonte dans certaines zones où justement ces orchidées poussent. Malheureusement, il y a quelques orchidées qui s'échappent de ces zones-là et qui sont quand même tondues.
Qu'est-ce qu'une orchidée ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Alors, les orchidées, c'est une famille de plantes à fleurs qui représente à peu près 10% des plantes à fleurs au niveau mondial. Donc c'est des plantes qui se sont spécialisées dans la pollinisation avec généralement une seule espèce d'insecte. Donc elles sont extrêmement liées à une seule espèce d'insecte pour sa pollinisation. Alors que la plupart des plantes, elles tolèrent beaucoup plus d'espèces d'insectes butineurs diverses.
Nous nous dirigeons à présent vers le potager.
Alors, nous voici dès à présent au potager. Alors, qu'est-ce qu'on y cultive ?
Alors, au potager, on a essayé de mettre des plantes qui ne demandent pas trop d'entretien. Donc, on a de la rhubarbe, par exemple. Donc, ce sont plutôt des plantes vivaces, hein, donc on n'a pas besoin de les ressemer chaque année. On a un bac avec des fraisiers qui sont en fleurs actuellement et qui vont bientôt donner leurs premières fraises. Tout le long du bâtiment ici, on a un bac avec des plantes à fruits rouges, des framboisiers, des groseilliers, des cassissiers. Ici, on a un bac avec ce qu'on appelle du cardon, donc ça ressemble à un artichaut. C'est une plante dont on mange les pétioles des feuilles. Et puis, il nous reste trois bacs où on a mis des pommes de terre, mais on est obligé de les replanter chaque année. Des pois mangent tout. Et un bac avec des courges, ce qui permettra d'avoir normalement des courges à la rentrée de septembre prochain.
D'accord. Et du coup, qui s'en occupe ?
Alors, on a des élèves qui viennent s'en occuper avec les professeurs. Donc, l'année dernière, on avait des élèves qui venaient régulièrement. Et cette année, on a fait des activités plus ponctuelles, certains mercredis, parce qu'on a eu du mal à dégager des heures communes avec les élèves, avec la complexité des emplois du temps actuels.
D'accord. Et que deviennent les légumes et les fruits ?
Alors les fruits, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup de récoltes, donc pour l'instant, on ne s'est pas trop posé la question. Mais normalement, ils peuvent être picorés par les élèves au moment des interclasses ou en sortant de la cantine.
Quel est l'intérêt du potager ?
Alors déjà, c'est de sensibiliser donc le personnel et les élèves du lycée à ce que c'est qu'un potager, en fait. Il y en a qui connaissent les légumes uniquement emballés sous plastique au supermarché. Et aussi de les faire intervenir et de faire des activités un peu différentes que de l'activité scolaire pure.
Très bien, merci beaucoup. Nous nous dirigeons dès à présent à la mare pédagogique. Nous voici dès à présent rendus à la mare, à Bonport, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est justement ?
Bah, une mare, c'est une zone d'eau où il n'y a pas de courant. Donc on voit ici qu'elle n'est pas très grande, mais c'est des milieux écologiques particulièrement riches, avec un développement d'une faune aquatique, d'une flore aquatique, avec des zones plus ou moins, enfin avec un dégradé d'humidité sur les bords, et qui abrite aussi bien des animaux qui vont venir vivre dans l'eau, comme des grenouilles, des animaux qui vont venir se reproduire dans l'eau, comme par exemple des libellules qui viennent pondre dans l'eau, les larves se développent dans l'eau. Il y a toute une faune qui est autour, qui va se nourrir de ces animaux, donc des micro-mammifères par exemple, comme des musaraignes. L'année dernière, sous les tôles qui sont là-bas, à l'automne, on a découvert des petites musaraignes.
Alors, comment elle a été construite, cette mare ?
Ah, elle a été construite grâce à une ancienne élève de M. Pouan, qui travaillait dans une entreprise de travaux publics, et qui nous a gracieusement, ou quasiment gracieusement, prêté une journée de pelleteuse et d'ouvriers. Et on a reçu une subvention du Conseil Général, qui a permis de financer la bâche, parce qu'il y a une bâche là-dessous pour rendre imperméable le sol. Et en une journée, donc, elle a été construite.
Et comment elle est entretenue ?
Eh bien là, c'est une zone sauvage, donc actuellement, elle n'est pas vraiment entretenue. On a récupéré l'eau de la gouttière du bâtiment d'à côté, dans un réservoir. Et il y a possibilité, donc, si jamais le niveau d'eau baisse trop, de réalimenter cette mare avec l'eau de pluie.
Et quelle biodiversité y a-t-il dans cette mare ?
Alors la biodiversité s'est installée, on n'a introduit aucune espèce, c'est-à-dire que toutes les plantes qui sont là sont arrivées naturellement. Ça veut dire qu'il devait y avoir des graines dans le sol, sachant qu'ici, le lycée Rotrou, il est construit sur un ancien marais. Donc il devait y avoir des graines de plantes aquatiques qui étaient présentes, puisque toutes les plantes qu'on voit apparaître ici, c'est des plantes aquatiques et personne n'est venu les apporter.
Et le fait qu'il y ait des poissons, ça n'empêche pas le développement des amphibiens ?
Alors les poissons, c'est la seule espèce qu'on a introduite. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont toujours là. C'est parce qu'au début, on avait prolifération de moustiques, et vu que les logements ne sont pas très loin, donc on a introduit des poissons pour se débarrasser rapidement des larves de moustiques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'équilibre est trouvé, on n'a plus de larves de moustiques dans la mare.
Maintenant, nous allons nous intéresser à l'éco-pâturage. Caroline, à toi l'honneur.
Nous voilà à présent devant les deux merveilleux moutons que nous avons accueillis au lycée l'année dernière. À quoi servent les moutons ?
Alors les moutons ici, c'est aussi un rôle pédagogique, c'est pour montrer qu'on peut entretenir une zone, non pas avec des tondeuses qui font du bruit et qui consomment du travail humain et de l'énergie pétrolière, mais naturellement avec des moutons qui donc sont chargés de pâturer la zone. Donc cette zone n'a pas été tondue artificiellement depuis que les moutons sont là, donc ça fait presque 2 ans.
Pourquoi en avoir deux ?
Parce que les moutons, ils n'aiment pas trop être tout seuls. Donc en fait, ils préfèrent être en troupeau. Et le minimum de plusieurs, c'est deux.
D'où viennent les moutons ?
Alors, les moutons, ils sont loués à une ferme qui loue cette race de moutons, qui est une race naine. C'est des moutons de Ouessant, qui sont pas trop gros et qui sont très adaptés aux conditions rustiques. Donc en fait, on n'a pas besoin de beaucoup s'en occuper.
Sont-ils tondus ?
Oui, donc les moutons produisent de la laine. On est obligé de les tondre une fois par an. Donc c'est le propriétaire qui est venu les tondre l'année dernière au mois de juin.
C'est le propriétaire qui récupère la laine ou vous l'utilisez à usage pédagogique ?
Là, l'année dernière, ça s'est fait un peu rapidement. Donc on n'a pas communiqué sur la tonte. On aimerait bien communiquer sur la tonte et faire une sorte d'activité autour de la tonte, qu'elle soit publique. Et dans ce cas-là, la laine pourrait être récupérée par les personnes qui sont là en souvenir. Mais nous, on n'a pas récupéré la laine pour l'instant.
On a vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux arbres. Depuis quand est-ce qu'ils sont plantés et pourquoi en planter de nouveaux ?
Alors, il y a quelques années, il y a le lycée, l'espace vert était un peu négligé. En fait, les moyens n'étaient pas mis sur l'entretien de ces espaces verts. Et ça faisait vraiment une zone plutôt de terrain vague. Et Madame Bouzuna est arrivée et elle a décidé d'investir dans ces arbres. Donc, elle a fait planter 4 grands arbres pour agrémenter le parc, en fait. Et plusieurs autres arbres ont été apportés par des personnels. Et ils ont été plantés, ils sont très jeunes et on espère qu'ils vont pousser et donner certains des fruits.
Qu'est-ce qu'il y a comme arbre ?
Alors on a une grande diversité, on a des arbres à feuilles décoratives avec des feuilles colorées, par exemple la feuille rouge. Et on a des arbres fruitiers comme des figuiers, des cerisiers, des pêchers.
Une dernière question, comment avez-vous été associé à ce projet et quels sont vos souhaits pour la suite du lycée vert ?
Alors j'ai été associé parce que c'est l'équipe de SVT surtout qui a mené ce projet. On a intégré des projets d'autres collègues qui se sont impliqués aussi et l'administration qui s'est impliquée. Et avec, par effet boule de neige, on a essayé d'agréger tous ces projets pour en faire le projet Lycée Vert, sachant qu'il y a d'autres projets qui sont moins, on va dire, naturels. Par exemple, le parc à vélo que vous voyez derrière vous, là, qui a été refait l'année dernière. Il avait été détruit il y a plusieurs années. Et là, depuis que le parc à vélo est mis en place, on a beaucoup plus de jeunes qui viennent au lycée à vélo.
Est-ce que vous avez d'autres projets pour le lycée vert ?
Alors oui, il y a un projet d'installer un rucher. Alors, maintenant qu'on a les fleurs, on aimerait bien avoir les abeilles. Et donc il y aurait possibilité sur le toit du lycée d'installer des ruches, de telle manière qu'elles soient à la fois dans le lycée et à la fois loin des élèves et qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Et donc on aurait même un apiculteur qui serait intéressé pour mettre ces ruches.
À peu près combien de ruches vous aimeriez avoir ?
Ah bah là, le nombre de ruches, ça va dépendre de ce que pourra fournir le propriétaire, mais si on avait 2 ou 3 ruches, ça serait déjà très bien.
Une ruche, ça récupère à peu près combien d'abeilles ? Ça en héberge combien à peu près ?
C'est plusieurs centaines à plusieurs milliers d'abeilles par ruche, mais aujourd'hui avec le développement des produits chimiques en agriculture, on a de plus en plus de ruches qui périclitent à cause des pesticides. Et donc l'installer des ruches en ville, ça les protège parce qu'il y a moins de pesticides utilisés en ville. Donc on espère pouvoir remobiliser des jeunes pour s'investir dans tous ces projets, sachant que même si ceux qui ne sont pas investis, ils sont quand même au contact de ces projets et on espère tous les sensibiliser.
Merci beaucoup.
Partons maintenant à la rencontre de ces élèves impliqués, accompagnés de Monsieur Pouin, professeur de SVT du lycée.
Bonjour Monsieur Pouin, pourquoi êtes-vous réunis ici aujourd'hui ?
On est réunis ici pour s'occuper un petit peu du jardin potager, donc on a mis en place l'année dernière, et pour un petit peu le désherber, et puis pour faire quelques plantations pour que le lycée soit le plus agréable et puis le plus avenant. Et le plus pédagogiquement intéressant possible.
Je m'appelle Noah Pelletier, je suis en seconde 14.
Pourquoi as-tu décidé de venir aujourd'hui ?
Parce que je voulais aider en fait, et puis à la base on avait fait surtout du désherbage, mais là on va changer d'activité, on va planter des graines apparemment, donc c'est plutôt intéressant. Et puis c'est l'occasion d'aider et puis de faire un peu d'activité manuelle, donc c'est toujours ça.
Et que penses-tu du lycée vert ?
Bah, je trouve que c'est quand même une chose pas mal parce qu'on a l'occasion de faire pousser des carottes là où on prend nos cours, donc c'est quand même pas mal. Et puis je trouve que c'est une activité plutôt intéressante et c'est plutôt beau, je trouve aussi, esthétiquement.
Je m'appelle Amélia Audurois et je suis en seconde 6.
Pourquoi es-tu ici ?
Parce que j'avais envie de contribuer à l'entretien du lycée en venant jardiner. Et puis ça m'a toujours intéressé de venir jardiner ici et de m'occuper de plantes, de planter des graines. Après le désherbage, ça, on doit passer par là, mais au moins ça permet de faire pousser des belles choses.
Et que penses-tu du lycée vert ?
Je trouve que c'est super. C'est un super club qui a été créé par M. Point, le prof de SVT. Et ça permet en fait de passer du temps en plein air et de s'occuper en fait de l'extérieur.
Bon bah je me présente, je m'appelle Gaëtan Marchand, je suis en seconde 15 dans la spécialité cinéma.
Pourquoi tu décides de venir aujourd'hui ?
On m'a un peu kidnappé de force. Non, plus sérieusement, c'est que je me suis dit bah autant aider. J'ai rien à faire.
Que penses-tu du lycée vert ?
Vu que c'est à peu près la première fois que je fais et après je m'y connais pas trop, mais c'est quand même à mon avis une bonne initiative.
Vous faites quoi là du coup ?
On est au train de désherber encore une fois pour pouvoir replanter des patates. Tiens, est-ce que quelqu'un peut récupérer l'herbe ?
Okay. En fait, on doit débroussailler tout là.
On fait des tas à côté et puis on ira les mettre.
On doit tout remettre à niveau.
Oui, on est chaud.
Bah, vous pouvez récupérer ça si vous.
Et là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a fait il y a
un
mois. Parce qu'il y a un mois, les bacs étaient déjà totalement remplis de mauvaises herbes. On les a déjà tous désherbés, mais comme on n'avait pas encore planté, ben là, toutes les mauvaises herbes sont revenues. Voilà, c'est le principe.
Ils étaient tout beaux, ils étaient tout propres.
Ils étaient tout beaux, ils étaient tout propres.
Les pommes de terre, c'est lesquelles ?
Attends, je vais les mettre ça dans le couloir.
Nous remercions tous les intervenants pour leurs explications fort intéressantes et pour leur implication dans ce projet. C'est maintenant la fin de l'émission. Je vous dis à la prochaine et en attendant, n'oubliez pas de prendre l'air au vert.